9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Mars 1219, dans la tour de Londres. Il y a là, dans l'âtre d'une de ces énormes cheminées, vous savez, un vieux chevalier, il a environ 75 ans. Il s'appelle Guillaume le Maréchal. Oh, il porte beau. Mais la vérité, c'est que jamais encore il ne s'était senti aussi là. Même après tous les combats qu'il avait pu mener, je suis trop vieux, faible et tout démantibulé, dit-il. Et il parle français, pas oublier que l'aristocratie anglaise à l'époque descend en partie des Normands qui avaient conquis l'Angleterre en 1066. Et donc à Londres, dans la plus haute aristocratie anglaise, on parle le français. Guillaume est devenu un personnage puissant, on va voir comment. Il est le régent du trop jeune roi d'Angleterre Henri III qui n'a que 11 ans, qui est un Plantagenet. Il sent sa mort approcher, le vieux chevalier, il se fait conduire en bateau par la Tamise, depuis la tour de Londres jusqu'à son château de Carversham, à l'est de Londres. Il rassemble ses chevaliers, sa cour, son fils aîné qui va hériter ses titres, ses terres, etc. Et puis les frères Puinet qui recevront la portion congrue et qui resteront chevaliers errants comme Guillaume l'a été lui-même plus jeune. La foule est là qui se réunit devant le château et c'est une agonie qui n'en finit plus, qui va durer des semaines, qui va durer 2 mois. Et enfin, le 14 mai, je meurs, lâche dans un dernier souffle Guillaume le Maréchal, je vous confie à Dieu, je ne puis plus rester avec vous, je ne puis me défendre de la mort. Encore une confession et puis c'est fini. Il s'est éteint, le grand chevalier. Ses funérailles vont être absolument magnifiques. Tous les barons sont là. De l'autre côté de la Manche, même celui qui était son adversaire, le roi de France, Philippe Auguste, lui rend hommage. « Guillaume le Maréchal, dit-il, fut, selon mon jugement, le plus royal, vrai que j'ai jamais connu en quelque lieu que je fusse. » Le fils aîné du chevalier Guillaume, qui donc est Guillaume le Jeune, a bien l'intention d'assurer la postérité de son père. Il commande à un poète, à un trouvère, l'écriture d'une chanson. Ce poème va s'appeler, en français, « L'histoire de Guillaume le Maréchal » et il va raconter les exploits, les gestes de Guillaume, la geste, devrais-je dire, destinée à être chantée par un professionnel à l'occasion d'une cérémonie funéraire. L'auteur s'appelle Jean, on ne peut pas vous en dire plus à ce sujet, mais la vérité, c'est qu'il écrivait bien, avec talent, avec rigueur. Son texte a été retranscrit, il a été conservé. 12 parchemins, 20 000 vers, une sorte d'Iliade des temps médiévaux. Le récit a retenu l'attention de notre grand historien Georges Duby parce qu'il met en scène toutes les qualités que l'on attend d'un chevalier du XIIe siècle. Le courage, la loyauté, la générosité. Un chevalier qui donc est exemplaire. Le meilleur chevalier du monde, c'est tout simplement le titre de la biographie que lui a consacrée Georges Duby.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Donc Guillaume le Maréchal était né 75 ans plus tôt, vers 1145, à Caversham, vous l'avez compris, pas très loin de Londres, à l'est de Londres. Son grand-père avait servi comme maréchal auprès du connétable roi, donc il était chargé des écuries, du connétable du roi, pardon. On l'a appelé le maréchal et la fonction s'est transmise de père en fils aîné. À un moment, le père de Guillaume s'est engagé dans une rébellion contre le roi d'Angleterre, qui était Étienne à l'époque, le confesseur. Le roi l'a emporté, réclamé au père de Guillaume son fils en otage. Le père l'a livré Guillaume tout en rugissant « Je possède encore l'enclume et le marteau pour en faire un plus beau !» Le petit, lui, n'a que 5 ans, hein. Rupture, double rupture, remarque Georges Duby, avec la maison natale, avec l'univers féminin de la chambre aux jeunes enfants, et transfert très brusque dans un autre monde, celui des cavalcades, des écuries, des magasins d'armes, des chasses, des embuscades et des ébats virils. Les garçons grandissaient là, intégrés à la bande de cavaliers, adolescents mêlés dans la promiscuité militaire aux hommes déjà mûrs. Ils appartenaient déjà en position subalterne, confondus dans les premiers temps avec les goujats de service, à l'escouade qu'entretenait chez lui un autre patron chargé de les éduquer, de les amuser, qui devenait ainsi leur nouveau père, tandis que la figure du père, du vrai père, du père naturel, s'effaçait rapidement de leur mémoire. Si puiné, ils n'attendaient pas d'hériter un jour de lui. Guillaume finit par être rendu à sa famille. Son père, donc là on parle du vrai père, l'envoie en formation de l'autre côté de la Manche, auprès de Guillaume de Tancarville, pas loin du Havre, en Normandie. C'est cette époque hein, où la Normandie si disputée est anglaise en l'occurrence. Guillaume était si bien formé que si on l'avait sculpté, il n'eût pas eu plus de beaux membres, dit le poème. Je le vis et il m'en souvient bien, il était de chevelure brune et beau visage. Sa prestance est celle qui aurait convenu à un empereur de Rome. Il avait l'enfourchure large et il était d'aussi belle stature qu'un gentilhomme peut être. À 20 ans, voilà ce magnifique guerrier qui est fait chevalier. Il est quand même expulsé du château, hein, sans rien d'autre que son épée et son manteau. Il est condamné maintenant à errer, à tourner, comme on disait. Car Duby observe que cette société est grégaire. On survit grâce aux groupes, aux clans, aux amitiés, à toutes les familles. Alors celui qui reste seul, eh bien, il est bien malheureux dans cette société-là. Guillaume va choisir d'ailleurs de se rapprocher d'un oncle maternel, le comte Patrick de Salisbury, qui l'accueille. On est là cette fois dans le Poitou. Salisbury a pour fonction de protéger Aliénor d'Aquitaine, qui est l'épouse du nouveau roi plantagenet Henri II, comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie et d'Aquitaine, et puis maintenant roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Un jour, le convoi d'Aliénor est attaqué près de Poitiers. Salisbury est mortellement blessé dans le dos et le jeune chevalier Guillaume va voler à son secours. Il s'élança témérairement, tête nue, sans aume. Ils furent bientôt 68 contre lui armés des pieux. À plein courage, il parvint à tuer 6 de leurs chevaux, mais enfin, passant de l'autre côté de la haie où le jeune chevalier s'était adossé, un adversaire par derrière encore lui perça la cuisse. Il tomba, on l'emporta, bonne prise, grièvement blessé. De ce fait d'armes fort brillant, le retentissement fut tout autre que des plus évidentes prouesses accomplies sur le champ d'un tournoi. Pendant ce temps-là, dans cette embuscade, la reine Aliénor a réussi à s'échapper. Guillaume a risqué sa vie pour elle. Elle va échanger un certain nombre de prisonniers pour le faire libérer. Et le roi Henri le prend dès lors à son service. Voilà fini l'époque de l'errance. Par sa bravoure et par l'extraordinaire faculté qu'il a eue de s'en sortir, Guillaume, désormais, appartient à la maison royale des Plantagenets. Une danse des chevaliers que connaissent bien les auditeurs de Radio Classique, extraite évidemment du Roméo et Juliette de Prokofiev. L'orchestre symphonique de San Francisco était sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Vous écoutez Radio Classique.
Henri II va affecter ce jeune chevalier, donc Guillaume le Maréchal, au service de son propre fils Henri, le jeune, qui a 15 ans. Guillaume devient le mentor du prince, il lui montre comme il faut se battre, il devient son maître d'armes, le chef de ses chevaliers, il l'entraîne au tournoi. C'est la grande époque hein, des tournois, le poème raconte en détail pas moins de 16 d'entre eux, tournois en Normandie, en Picardie, en Champagne, en Bourgogne, en Anjou, pas en Angleterre, le pays des tournois c'est la France, n'est-ce pas, il faut être sur le continent, les tournois sont si populaires parmi les chevaliers que beaucoup de très jeunes hommes meurent par accident dans l'élan des combats et l'Église préférerait les voir partir en croisade plutôt que de se tuer dans ce genre de festivités. Elle va tenter d'interdire les tournois à l'Église, mais elle n'y arrive pas. On s'affronte par équipe de 40 à 100 chevaliers, comme à la guerre, non pas sur un champ bien plan, mais de préférence sur un vaste terrain accidenté, avec pour but de provoquer la débandade, de désarçonner l'adversaire, de saisir les chevaux, etc. « Grande noise et grand bruit », dit le poème. « Tous tendaient à bien férir, là vous eussiez pu prendre si grand éclat de lance, de quoi les fragments tombant à terre jusqu'à se joindre, empêchaient les chevaux de poindre. » C'est le tournoi de Lagny dont on parle là, 3000 combattants à un moment. Le roi Henri, qui est de la partie, se trouve cerné, ses adversaires déjà lui ont pris son home. Et alors, dit le poème, « Le maréchal s'avança tant qu'il se lança sur eux, il férit tant avant-arrière, leur démontra tant sa manière, et tant poussa et tant tira, qu'à force au roi arracha la tétière de son cheval avec tout le frein et le tira. » Guillaume a donc, si vous voulez sauver le roi, « c'est par de tels services qu'il s'était rendu cher au roi », écrit le Trouvert. Le soir, les équipes, si l'on peut dire, échangent les chevaux et les hommes capturés contre des rançons. C'est un métier, d'une certaine manière, un sport rémunéré dans lequel excelle Guillaume. Mais en 1183, dans le Quercy, Henri le Jeune vient à mourir de maladie soudaine. Et voilà Guillaume le maréchal de nouveau un peu perdu. Il n'a plus de clan, il a presque 40 ans à ce moment-là. Et il décide de partir en croisade. Le voilà parti pour la Syrie. Il s'illustre encore par sa bravoure là-bas. Il va intégrer l'ordre des Templiers. Mais oui, et quand il rentre, le roi d'Angleterre le réclame à son service. C'est toujours Henri II. Mais il est vieux maintenant, Henri Plantagenet. Il est malade. Ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre ont trahi pour dépecer le royaume avec l'aide de leur mère Aliénor. Ils se sont alliés, rapprochés du roi de France, Philippe Auguste. Philippe Auguste qui a bien l'intention de chasser les Plantagenets des possessions qu'ils ont en France, hein, dans tout l'ouest du royaume. La guerre est larvée, ponctuée d'escarmouches. On essaie de capturer l'adversaire, on détruit les récoltes, on tue des paysans et de temps en temps, il y a une grande bataille organisée avec tout le rituel, un peu comme une cérémonie. Hein, on s'en remet à Dieu, c'est le grand arbitrage, si vous voulez. Guillaume, par exemple, participe à la prise de Montmirail dans le Maine. C'est à cette époque que le chevalier prend à son service un nouvel écuyer qui s'appelle Jean d'Erly, qui a 20 ans et qui devient son compagnon pendant 30 ans. Jean ne se mariera pas, on dit alors qu'il reste jeune. « Il fut lié à Guillaume le maréchal toute sa vie », nous dit Georges Duby, « parce que le poème appelle « amour », un mot très fort, l'amitié virile à son comble ». Le poème lui-même est sans doute tiré des confidences de Jean d'Erly à l'auteur. Tous les dialogues sont masculins, d'ailleurs note Duby, les femmes n'ont pas la parole. Le texte ne relate que deux aventures féminines dans la vie de Guillaume, dont l'une était peut-être une fausse rumeur propagée par ses rivaux. Il aurait couché, dit-on, avec l'épouse du prince Henri le Jeune, mais lui se défendait de ça, bien sûr. Guillaume a maintenant 50 ans et pour le récompenser de ses excellents services, le vieil Henri II lui promet de lui attribuer une épouse fortunée, la pucelle Isabelle de Strigail, qui est comtesse de Pembroke. Elle possède 65 fiefs, ce qui est absolument considérable. Pas de chance pour Guillaume, le roi vient justement à mourir. Entre parenthèses, il meurt seul et dans la souffrance, Henri II. Guillaume, à ce moment-là, doit se présenter devant le nouveau roi, qui est Richard Cœur de Lion, pour réclamer ce mariage qu'on lui avait promis. Sauf que, quelques mois plus tard, les deux hommes s'étaient combattus. Guillaume avait vaincu Richard et il lui avait laissé la vie sauve, mais il avait tué son cheval. « Sire, se défend maintenant Guillaume devant Richard, je n'ai jamais eu l'intention de vous tuer, ni ne m'appliquais à le faire. » « Maréchal, je vous pardonne, lui dit Richard Cœur de Lion, jamais je n'en serai irrité contre vous. » Il a lui aussi besoin du valeureux chevalier, même il va lui accorder ce fameux mariage avec la très riche Isabelle. Guillaume se précipite à Londres pour récupérer sa promise qui attendait dans la tour de Londres. Il se dépêche de consommer son mariage pour devenir comte de Pembroke et désormais assurer sa puissance. Car en ce temps, le seul vrai pouvoir appartient aux hommes mariés, explique Duby. L'homme a 1000 fois plus de valeur que sa femme, mais il n'en a presque pas s'il ne possède pas lui-même une femme légitime dans son lit, au cœur de sa propre maison. Un chevalier qui se marie entre dans le cercle de tous ceux qui dominent. Et pour Guillaume, on peut dire que ce mariage assure un statut, c'est un véritable changement de classe.
Thank you.
Le Rouet d'or, un poème symphonique de Dvorak, c'est Marcus Bosch qui dirigeait la Philharmonie d'État de Nuremberg.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, Guillaume le Maréchal, qui s'est marié tard, va partout emmener sa femme Isabelle en Normandie, en Irlande. C'est un peu son étendard, si vous voulez. Il réunit les barons à Kilkenny. « Seigneur, voyez la comtesse que je conduis ici, devant vous, par la main. C'est votre dame naturelle qui vous a investi de vos fiefs lorsque le roi eut conquis la terre. Elle reste parmi vous enceinte jusqu'à temps que Dieu me ramène. Je vous prie tous de la garder bonnement et naturellement, puisqu'elle est votre dame. » Et Guillaume, au passage, va également hériter de son frère aîné qui meurt avant lui. C'est un âge mûr, extrêmement plein de moissons. Il devient le patron de la lignée, le responsable de tous les garçons de la famille, hein, les frères, les neveux, etc., qui deviennent ses plus proches chevaliers, qui sont toujours avec lui maintenant. Un personnel nombreux le suit partout. Quand je dis personnel, chambellan, chapelain, clerc, chevalier, etc. Quand il embarque pour la Normandie en 1194, il faut deux bateaux pour emmener son immense suite. Et il va faire à Isabelle, enfin c'est elle qui va lui donner 10 enfants, dont les mariages permettront encore de légitimer, d'élargir sa lignée. Regardez l'incroyable succès de ce chevalier. Pendant ce temps-là, on poursuit la guerre contre les Français. On voit Guillaume se battre sur les remparts de Milly, en Touraine. En 1199, vous savez que Richard Cœur de Lion meurt de ses blessures à Chalut. Et son frère, Jean Santerre, lui succède. Seulement, il va perdre, lui, la guerre contre Philippe Auguste. Il abandonne la Normandie aux Français. Puis Jean meurt à son tour et Guillaume enterre son 4e roi Plantagenet. Avant de mourir, Jean lui a confié son fils de 9 ans, qui est Henri, le futur Henri III. Hein. Le chevalier Guillaume devient donc régent. Il adoube alors le prince, il le prend sous sa coupe. Le garçon chevalier fut petit et beau, nous dit le poème. Guillaume promet de protéger ce prince anglais des Français qui veulent le capturer. Il dit « Savez-vous ce que je ferai? Sur mon cou le porterai d'île en île. » C'est une sorte d'ange gardien désormais pour ce petit roi qui, disons-le, est entre de bonnes mains.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Guillaume continue de guerroyer donc contre ces Français, quelques barons anglais qui maintenant tentent de prendre l'Angleterre et qu'il faut eux aussi mettre à la raison. Les deux camps vont faire appel à l'arbitrage de Dieu au cours d'une nouvelle bataille. On est en 1217, cette fois à Lincoln. Guillaume a presque 75 ans, hein. Il faut le voir dressé sur son cheval qui galvanise ses troupes. Il est plus puissant que jamais dans l'expression « pour défendre notre valeur », dit-il. « Pour nous, pour tous ceux qui nous aiment, pour nos femmes et pour nos enfants, pour la défense de nos terres, pour conquérir le très haut honneur, soutenons bien le poids des armes ». Et il conclut, Guillaume le Maréchal, avec ce sens de la formule qu'il a acquis peu à peu sur les champs de bataille, « Vous êtes la demeurance du pays ». Et le voilà qui maintenant charge en première ligne, aussi léger qu'Émerillon, dit le poème. Et il transperce et tue le jeune comte de Perche qui menait la troupe adverse. Cette fois, on peut dire que le jugement de Dieu s'est exprimé dans un sens bien clair. Les Français ont perdu. Ils doivent se retirer d'Angleterre. Et Guillaume, qui est grand seigneur, vous l'aurez compris, le meilleur chevalier du monde, n'est-ce pas, raccompagne lui-même le fils de Philippe Auguste jusqu'à la côte, le prince Louis. On reprochera d'ailleurs à Guillaume d'avoir fait preuve de cette clémence, peut-être un peu exagérée. Simplement, il s'est montré ce qu'il devait être. Il s'est montré chevalier. Il s'est montré chevaleresque. Une dernière fois, il a incarné, si l'on en croit son poème, les valeurs du bon chevalier. Vous les connaissez, vous les avez comprises. La loyauté, la bravoure, la largesse.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin de nous avoir aidés à si bien commencer la semaine, en compagnie maintenant de Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. Trois valeurs que vous possédez, bien sûr.
Moi, j'essaie de m'approcher, comme tout le monde.
On essaie tous, oui. On y arrive plus ou moins bien, mais ça fait partie de la vie, du mouvement de la vie. Alors, on va changer carrément de registre cet après-midi, après Guillaume le Maréchal, vous allez évoquer Radio Londres.
Oui.
Des moments si importants qu'a été la radio à cette époque-là, qui a continué après d'ailleurs avec un certain général peut-être.
Oui, n'est-ce pas, hein, on reste de l'autre côté de la Manche d'une certaine façon.
Oui, c'est ce que j'allais
dire. Avec la même loyauté, bravoure et largesse du reste.
Mais ça tombe très bien. Demain matin à 8h05 aux côtés de David Abriquaire et puis ensuite à 9h, Franck Ferrand raconte et on aime bien que vous racontiez, donc ne changez rien. Bonne
vous
journée.
Vous non plus, vous non plus.
À demain.